Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. De qui est cette image et cette inscription ? Laissons de côté, si vous voulez bien, la monnaie et l'image de César et appliquons cette parole de notre Seigneur à notre âme, comme s'il était dit « Chrétien, regarde-toi toi-même, de qui es-tu l'image et de qui portes-tu le nom ? Tu as été créé à l'image de Dieu, à sa ressemblance, tu as été baptisé au nom de la Sainte Trinité, tu en portes la marque indélébile inscrite dans ton âme. Par le baptême, Dieu lui-même a réparé en toi son image souillée par le péché et t'a marqué de son signe, ce qu'on appelle le caractère baptismal. Tu es donc l'image de Dieu. » Cette image repassera par les mains et devant les yeux de Jésus-Christ au jour de notre mort. Et notre Seigneur dira encore une fois, en nous regardant, « De qui est cette image et cette inscription ?» Et nous serons bien obligés de répondre « De Dieu ». Car c'est pour lui que nous étions faits. Nous devions porter son empreinte. Le baptême l'avait réparé, cette image. C'était là son effet, son caractère. Mais que seront devenus ces divins traits que nous devions porter fidèlement ? Cette image dont nous étions marqués, comme la foule innombrable des élus que l'épître de la Toussaint nous a décrite, se sera-t-elle gardée intacte ? Ou bien se sera-t-elle ternie ? Peut-être même se sera-t-elle transformée en l'image du diable, comme les damnés dont nous parle l'Apocalypse, qui sont tous marqués du signe de la bête. Si c'était le cas, ce qu'à Dieu ne plaise, nous entendrions alors la terrible sentence du juste juge. « En vérité, je ne vous connais pas, nescio vos. Vous n'êtes plus mon ouvrage. Je ne vois plus en vous ce que j'y avais mis, mon image. Vous êtes l'ouvrage du plaisir, de l'ambition. » L'ouvrage du diable dont vous avez fait les œuvres et que vous avez fait votre père en l'imitant. Alors notre Seigneur dira « Allez aux feux éternels ». Pour éviter un tel drame, l'Église nous fait méditer pendant ce mois de novembre sur ce qu'on appelle les fins dernières. Et c'est une méditation très importante. Ces fins dernières consistent en quatre choses, quatre grandes vérités qu'il faut garder présentes à l'esprit. La crainte du jugement, de notre jugement et du jugement dernier, la crainte de l'enfer, le désir du ciel et la pensée de la mort. Cette méditation des fins dernières a toujours été considérée comme un des fondements de la vie chrétienne, l'un des moyens les plus efficaces de se garder du péché, l'un des stimulants les plus énergiques pour marcher vers la perfection. C'est par cette méditation que l'âme s'établit dans la crainte de Dieu. Or, nous dit l'Écriture, la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Et sans cette crainte de Dieu, dit saint Ambroise, il ne saurait y avoir de vraie science spirituelle. Il ne faut pas nous croire meilleurs que nous sommes. Nous avons besoin de cela. Don Guéranger écrivait ceci, ça reste très d'actualité, plus que jamais même. « La mollesse d'aujourd'hui semble vouloir donner un autre fondement au service de Dieu dans l'homme pécheur. C'est s'abuser étrangement. Sans doute, il est écrit que l'amour chasse la crainte. Mais qui peut se flatter de posséder l'amour parfait ? Et d'ailleurs, si l'amour dissout la crainte, n'est-ce pas la preuve que la crainte a préexisté à l'amour ? » Et oui, c'est la crainte, la bonne crainte, non pas la crainte servile, non pas la peur de Dieu, mais la crainte de l'offenser, c'est cela qui mène à l'amour de Dieu. Et nous ne pouvons nous passer de cette crainte. Alors, mes frères, ne rejetons pas ces considérations si importantes et si bénéfiques pour la vie de nos âmes. Pour n'être pas trop long, contentons-nous ce matin de parler de deux des quatre fins dernières. La crainte du jugement et la pensée de la mort. Et d'abord, la crainte du jugement, ce jugement qui nous attend au jour de notre mort. Ne faisons pas comme les impies qui se persuadent qu'il n'y a rien au-delà de la mort, qu'après cette vie, nous serons comme si nous n'avions jamais été, et donc qu'il faut profiter des plaisirs de la vie, jouir des biens présents. C'est une très grave illusion. Ne cherchons pas non plus à nous rassurer en nous persuadant que Dieu est trop miséricordieux pour ne pas tout pardonner. C'est très moderne comme erreur. Et c'est outrager gravement la miséricorde de Dieu que de la croire indifférente au bien et au mal. Dieu déteste le péché. Il le hait. Il a pour lui une horreur qu'aucun mot humain ne saurait exprimer. Et donc Dieu châtiera avec la dernière rigueur ses péchés chez ceux qui n'auront pas fait pénitence de leur faute. C'est important de se dire ces choses. Et puis, ne cherchons pas non plus à nous rassurer sur les mérites que nous pensons avoir accumulés et sur la droiture de notre vie. Cette confiance présomptueuse est encore plus dangereuse que l'indifférence du pécheur. C'est l'histoire du publicain et du pharisien. L'orgueil pharisaïque, c'est ce que Dieu déteste le plus. Donc toutes ces attitudes ne sont pas chrétiennes. Le vrai chrétien, lui, sait qu'il n'est qu'un pauvre pécheur. Et il sait aussi que Dieu est infiniment saint, parfaitement juste, et que devant lui, comme dit saint Augustin, c'est une manière de parler, l'enfant d'un jour lui-même n'est pas sans péché. Si nous avions conscience de la malice inouïe des moindres fautes que nous commettons contre la majesté de Dieu, il y aurait de quoi tomber dans le désespoir. Mais heureusement, Dieu qui nous aime nous assiste de sa grâce. Cette grâce que l'Église nous fait demander si souvent par l'intercession de la Sainte Vierge. Priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Voilà les sentiments vraiment chrétiens. Vous le voyez, la crainte de Dieu, la crainte de ses jugements est une excellente chose. Elle est un puissant instrument de perfection, à condition bien sûr de ne pas rester stérile. C'est-à-dire, elle doit servir à extirper nos vices, à corriger nos habitudes mauvaises et au bout du compte à aimer Dieu davantage, d'une façon plus efficace. C'est ce que l'Église nous fait faire en nous recommandant la pratique si salutaire de l'examen de conscience quotidien. C'est un exercice qui est très important. Lisez, justement, comme il était dit à l'instant, là, cet article du sel de la terre. Il y a beaucoup de détails, beaucoup de précisions. C'est très précieux. C'est quelque chose qu'il faut connaître. Il faut nous juger nous-mêmes pour n'être point jugés par Dieu. Il faut examiner souvent notre conduite et chercher à faire disparaître tout ce qui est de nature à déplaire au souverain juge, sans attendre le jugement. Il faut tenir notre cœur préparé par une vie pure. Alors, si vraiment nous faisons cela, nous n'aurons pas à redouter l'arrivée du jour du jugement. Mais nous pourrons au contraire l'aimer ce jour. Car si ce jugement doit être terrible pour les pécheurs impénitents, pour les amis de Dieu, les vrais amis de Dieu, c'est au contraire le terme de leur peine, le commencement de leur vrai bonheur. Donc il faut nous dire que tant que ce jour n'est pas arrivé, il nous est possible de choisir le parti que nous voulons suivre. Mais après, quand ce jour sera venu, alors il ne sera plus temps. Donc il ne faut pas attendre. À cette crainte du jugement, l'Église nous demande de joindre la pensée de la mort. En parlant du jugement et de l'enfer, saint Benoît, dans sa règle, car saint Benoît parle de ces choses dans sa règle, et il en parle même très abondamment, saint Benoît donc dit qu'il faut redouter le jugement et l'enfer, les craindre. Le mot qu'il emploie, c'est « espavetchere ». Mais pour la mort, il recommande seulement de l'avoir chaque jour sous les yeux. C'est que la mort n'est pas un mal absolu, loin s'en faut. Il y a, selon saint Ambroise, trois genres de mort. La première, c'est la mort de l'âme, l'état de mort surnaturelle qui suit le péché grave, la perte de la vie de la grâce. Et si l'âme meurt dans cet état, vous le savez bien, c'est la damnation éternelle. La seconde mort, c'est la mort mystique, comme disent les auteurs, celle par laquelle l'homme meurt au monde et aux créatures. Et puis la troisième mort, c'est la mort naturelle, la séparation de l'âme et du corps, qui marque le terme de la vie présente. La première mort est un mal absolu, c'est le seul vrai mal, elle est redoutable toujours, il faut la craindre absolument. La seconde, au contraire, est un bien souverainement désirable, que l'âme en quête de perfection recherche avec ardeur. On lui donne le nom de mortification. Mettre à mort, c'est ça que ça veut dire, mortification. Elle consiste à faire mourir en nous les vices, les convoitises, les mauvais penchants, tout ce que saint Paul appelle le vieil homme, la tendance à l'orgueil, à la sensualité, à la cupidité, à la colère. Et tout ça est très bon, il faut le désirer. Et puis la troisième mort n'est ni un bien ni un mal absolu. Saint Ambroise dit qu'elle tient le milieu entre les deux autres. Pour les justes, elle est un bien, et pour la plupart des hommes, c'est un objet de terreur. Et c'est elle, d'elle dont il est question ici. Alors pourquoi faut-il avoir souvent devant les yeux la pensée de la mort? Eh bien, on peut donner à cela trois raisons. D'abord, parce que la mort est le seul événement touchant notre avenir dont nous ayons une certitude absolue. La deuxième raison, c'est parce que rien n'est aussi incertain que son heure. Nous ne savons pas quand la mort interviendra. Et puis la troisième raison, c'est parce que d'elle dépend toute notre éternité. Alors d'abord, la certitude d'avoir à mourir un jour est la seule certitude que nous possédons sur notre avenir. Et donc, si nous sommes raisonnables, c'est le seul fondement que nous puissions donner à l'édifice de notre vie. Les gens du monde, qui n'ont aucun souci de leur éternité, ordonnent leur existence comme s'ils étaient assurés d'avoir encore de longs jours devant eux. Alors ils font des tas de projets, plus ou moins coupables, mais c'est une hypothèse extrêmement fragile. Nul ne peut savoir avec certitude s'il a encore une année, ou un mois, ou une semaine, ou une heure à vivre. La seule chose dont nous sommes sûrs, c'est qu'un jour nous mourrons. Saint Augustin a des paroles très fortes à cet égard, mais qu'il faut méditer. Voici ce qu'il dit. « Considérez tous les biens ou tous les maux de cette vie, dans la justice ou même dans l'injustice. Qu'y a-t-il ici-bas de certain sinon la mort ? Tu avances dans la vertu, tu sais ce que tu es aujourd'hui, mais tu ne sais pas ce que tu seras demain. Tu es pécheur, tu sais ce que tu es aujourd'hui, mais tu ne sais pas ce que tu seras demain. Tourne-toi de toutes parts, tu ne vois qu'incertitude, la mort seule est certaine. Tu es pauvre, il n'est pas certain que tu deviennes riche. Tu es ignorant, il n'est pas certain que tu deviennes savant. Tu es malade, il n'est pas certain que tu guérisses. Tu es né, il est certain que tu mourras. Dans toutes ces incertitudes, il n'y a que la mort qui soit assurée. Et c'est très vrai. Tandis que les hommes s'efforcent par tous les moyens d'écarter cette pensée, de vivre comme si la mort ne devait jamais les atteindre, le chrétien, lui, pose cette certitude comme le fondement sur lequel il bâtira tout l'édifice de sa perfection. La pensée de la mort, c'est comme un observatoire, si on est vraiment chrétien. Observatoire du haut duquel le chrétien peut diriger sa vie et examiner toutes choses. De là, il peut mesurer à leur juste valeur les biens, les honneurs, les plaisirs du monde, et il comprend l'effrayante vanité de toutes ces choses. Un autre petit texte de saint Bonaventure, cette fois, qui nous dit bien ces choses. « Que sont toutes les choses de ce monde, dit ce saint, sinon des songes fugitifs? Quels fruits ont tiré de leur orgueil les amateurs du siècle ? Quel avantage leur a produit la vaine ostentation de leur richesse? Toutes ces choses se sont évanouies comme une ombre, comme un vaisseau qui fend les flots agités et ne laisse après lui aucune trace de son passage. » L'image est très éloquente, elle est tirée de la Sainte Écriture. L'étrave du bateau qui fend les flots, mais quand le bateau est passé, les flots se referment et on ne voit plus rien. Il n'y a plus aucune trace. On n'emportera rien dans notre cercueil. La seconde raison qui doit nous porter à songer souvent à la mort, c'est l'incertitude où nous sommes de l'heure à laquelle elle doit nous frapper. « Vous ne savez point, dit notre Seigneur, quand viendra votre maître, si ce sera le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou au matin. » C'est saint Marc qui rapporte cette parole. Les uns meurent dans leur lit, les autres sont victimes d'un accident. La mort frappe indistinctement le riche, le pauvre, le vieillard, l'enfant. Elle survient à l'improviste, sans égard ni pour l'âge, ni pour la condition, ni pour les œuvres accomplies, que de personnes en pleine vigueur de corps et d'esprit qui brusquement se trouvent en face de l'éternité. Là encore, si vous me permettez, lisez dans le dernier numéro du Sel de la Terre, à l'occasion de cet hommage rendu à Joël Morin, il y a un texte intitulé « Le vieux prédicateur ». C'est un ami de Joël Morin qui a écrit ce texte. C'est un très beau texte, très profond. Ce vieux prédicateur, c'est la mort. Et c'est le cimetière. La mort comme le cimetière, ce sont des prédicateurs silencieux, mais très éloquents, très très éloquents. Il faut aller dans les cimetières, non seulement pour rendre hommage à nos défunts, mais parce que c'est l'occasion d'une méditation qui est très profonde. Quand on voit toutes ces tombes, toutes ces inscriptions sur toutes ces plaques funéraires, tous ces gens ont vécu comme nous, ils étaient sur cette terre et ils sont morts. Dans quel état ? Et la troisième raison pour laquelle il nous faut souvent penser à la mort, c'est que l'éternité dépend tout entière de notre mort. Si nous mourions deux fois, le danger ne serait pas si grand. Nous pourrions réparer l'échec de notre première vie par une deuxième vie. Mais il n'y a qu'une vie, on ne meurt qu'une fois. Et c'est pourquoi nous devons nous préparer à la mort. Et le meilleur moyen de se préparer, c'est de bien vivre. Car comme dit l'Ecclésiastique, l'arbre tombe du côté où il penche. S'il arrive parfois que de grands pécheurs se convertissent au moment de mourir, c'est une exception et ce serait une folie de compter sur une telle possibilité. On doit au contraire poser comme un principe très assuré que chacun meurt comme il a vécu. Celui qui vit dans le péché meurt dans le péché. Celui qui est fidèle à observer les commandements ne saurait être abandonné de Dieu à ses derniers instants. C'est encore l'Ecclésiastique qui le dit. Celui qui craint Dieu sera secouru en son extrémité et béni au jour de son trépas. Alors, le moyen concret de s'assurer une bonne mort, eh bien, c'est de formuler de temps à autre, souvent, les actes qu'on voudrait faire alors, car nous ne savons pas dans quel état nous serons. Donc, il faut s'y préparer. Il faut souvent faire ces actes d'abandon, de confiance en Dieu, d'acceptation du genre de mort que Dieu voudra pour nous. Ainsi, quoi qu'il arrive, quel que soit notre genre de mort, nous serons prêts. Quand bien même malades, déprimés par la souffrance, nous ne pourrions plus élever notre âme vers Dieu, eh bien nous nous serons mis longtemps à l'avance dans les dispositions convenables et Dieu nous trouvera dans ces dispositions et nous assistera. Et puis, à considérer la mort plus souvent, son visage nous paraîtra moins hideux. Et même d'une certaine manière peut-être familier. C'est quelque chose qui fait partie de la vie. Nous comprendrons que l'empire que la mort semble exercer sur toute la création n'est qu'un empire éphémère et que loin de marquer le terme irrévocable de toute chose, elle est seulement le passage qu'il faut franchir pour sortir de la misère de ce monde, pour être délivré de l'aiguillon du péché, et ça c'est heureux, pour entrer dans la gloire, dans la vraie vie, comme dit Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Alors, prions, demandons la grâce de bien mourir, la grâce de la persévérance finale. C'est la grâce des grâces, là. Il faut le demander à Notre-Dame. On honore Notre-Dame sous le beau titre de Notre-Dame de la bonne mort. Il faut la prier souvent, pour nous-mêmes, pour bien nous disposer à mourir, et puis pour nos défunts. Pour tous nos défunts qui attendent de nous cet acte de charité que eux-mêmes ne peuvent plus remplir, puisqu'ils sont désormais dans cet état figé après la mort. Nous sommes figés dans l'état où la mort nous a trouvés. Alors nous pouvons beaucoup pour eux. Nous pouvons prier, nous pouvons hâter la délivrance de leur âme s'ils sont au purgatoire. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.